CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau, tu vas nous parler d'intelligence artificielle.
Oui, à propos d'une réflexion de la FSU.
Ensuite, sera suivi de Clément Chassin pour nous parler cuisine ou peut-être légumes plus particulièrement.
Voilà, avec un légume local, mais alors vraiment très local, puisqu'il y avait une variété qui s'appelait le monstrueux de giroflée, on en reparlera. Donc les épinards.
Et enfin, on terminera l'émission avec à portée de parole. Cette fois-ci, nous recevons Jean-Pierre Fournier.
Oui, mais pas dans son rôle habituel. Il viendra nous parler de foot et en particulier d'une section adaptée.
Tout de suite, dossier du quotidien.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Alors, qu'est-ce que la FSU ?
La Fédération syndicale unitaire, qui a été créée en 1993, après l'éclatement de la FEN, Fédération de l'éducation nationale alors. C'est la première organisation de l'enseignement, 160 000 adhérents. Elle réunit 21 syndicats de personnel de l'éducation nationale, mais aussi des trois fonctions publiques d'État, comme les syndicats des personnels du premier degré, du second degré, du supérieur, de la recherche, des services culturels de l'État, des bibliothèques, de l'administration pénitentiaire, de la protection de la jeunesse, des assistants sociaux de la fonction publique, des services de l'emploi et de la formation professionnelle. Les échanges au sein de la FSU, de par ses regards croisés, sont très riches. Et la question de l'impact de l'intelligence artificielle sur la vie sociale et professionnelle s'impose à tous.
Qu'est-ce que l'IA ? Quelle est son histoire ?
Avant d'être devenue une question de société, l'intelligence artificielle est une discipline scientifique instituée dans les années 1950 qui s'est donnée comme objectif de simuler les fonctions cognitives pour reproduire artificiellement une forme d'intelligence. Elle est l'héritière d'une longue lignée de chercheurs et chercheuses en mathématiques et en informatique. Elle a été très largement financée par le complexe militaro-industriel et sécuritaire. Les définitions les plus répandues présentent l'IA comme un ensemble d'outils et de techniques qui permettent à des machines de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Il est aussi distingué deux niveaux d'IA, une IA dite faible ou étroite, qui permet à une machine de réaliser une tâche spécifique, avec une performance supérieure à l'humain, et une IA forte ou générale qui serait équivalente ou supérieure à l'humain pour effectuer n'importe quelle tâche intellectuelle. Actuellement, parmi les outils, il y a ChatGPT, qui est un agent conversationnel utilisant l'IA, développé par OpenAI et spécialisé dans le dialogue, capable de répondre à des questions, de tenir des conversations, d'écrire, traduire ou synthétiser des textes. OpenAI, c'est une entreprise américaine d'IA, fondée en 2015 à San Francisco, détenue à 49% par Microsoft et dirigée par Sam Altman. Deep Learning, c'est l'apprentissage en profondeur qui est un sous-domaine de l'IA pour résoudre des tâches complexes, analyser des signaux sonores ou visuels, reconnaissance faciale ou vocale, traitement automatisé du langage. Je sais que la Chine a créé un chat GPT également, mais je n'en connais pas son nom.
Alors de quoi est partie la réflexion de la FSU ?
En 1997, l'ordinateur Deep Blue battait le grand maître russe Garry Kasparov dans une mémorable partie d'échecs. La machine pensante surclassait le génie humain. Mais la machine pense-t-elle vraiment ? Si un cerveau peut rivaliser avec un ordinateur, l'ordinateur peut-il un jour se muer en cerveau, capable de décider, d'anticiper ? Tout ceci relevait naguère de la science-fiction. Mais aujourd'hui, comme Internet, l'IA est partout, incontournable dans la recherche, omniprésente dans les médias, insinuante dans les instructions relatives aux pratiques pédagogiques du primaire au supérieur, voire menaçante dans les entreprises pour les salariés soumis à son management ou aux destructions d'emplois par million. Mais plus encore, l'IA, par la volonté des grandes firmes transnationales, les GAFAM, paraît en passe de constituer un nouvel Eldorado pour un capitalisme financier avide de profit. le marché généré par l'IA dans les prochaines années, sauf éclatement de ce qui peut ressembler à une nouvelle bulle spéculative, s'élèverait à près de 4 000 milliards de dollars, soit davantage que le PIB de tout le Royaume-Uni. Enfin, le pillage des données personnelles, le risque avéré de surveillance généralisée et les conséquences énormes en termes de consommation d'énergie nécessitent à la fois une meilleure connaissance des enjeux et des choix politiques forts autour de quatre questions. Comment réorienter ces flux financiers vers l'intérêt général et non vers le profit de quelques oligarques de la Silicon Valley ? Comment imposer et à quel niveau politique une régulation des pratiques et des contenus de l'IA ? Comment veiller au respect de l'autonomie des salariés et notamment dans l'enseignement et la recherche face au risque accru d'imposition de normes de comportements individuels ou de pratiques professionnelles ? Et enfin, comment faire pour que la machine perfectionnée soit un outil d'émancipation de l'humain et non de son aliénation ? Pour terminer cette première chronique sur l'IA, j'ai envie de citer cette phrase d'Albert Jacquard. On peut apprendre à un ordinateur à dire « je t'aime », mais on ne peut pas lui apprendre à aimer.
Merci beaucoup Monique Couteau. C'était la première chronique, tu as dit, donc il y en aura donc une autre.
Oui.
Pour voir plus concrètement l'application de l'intelligence artificielle dans les services publics, l'éducation, la recherche, les questions et les problèmes soulevés. Merci, on passe tout de suite à la chronique à table. À table avec Clément Chassin.
Oui, donc là je vais vous parler d'un des petits plaisirs de l'hiver, les épinards. Alors on est en plein dans la saison et en plus c'est vraiment local puisque avant il y avait une variété qui s'appelait le monstrueux de Viroflay, qui était donc une variété d'épinards avec des feuilles particulièrement grosses et qui était donc...
Le nom d'une AMAP.
Alors la map s'appelle le monstrueux de Marivelle.
Oui, voilà, mais ça reprenait voilà, le nom du... Oui, c'est ça.
Voilà, et donc qui était une variété d'épinards donc typique... du coin. Et donc parlons d'épinards. Alors les épinards c'est génial, on est super content, on rentre chez soi avec un sac énorme et on se retrouve avec un tout petit tas embouilli au fond de la casserole.
Voilà.
On est bien vrai. D'accord, ça
on
nous est tous arrivé.
Oui, oui, comme voilà. Les champignons.
Donc moi, toujours la même question, comment faire simple, économique et bon avec ça ? Et alors moi du coup je vais vous proposer de faire une tarte ou un cake aux épinards avec un peu de chèvre.
C'est parti.
Donc en tarte pour commencer, donc... Faut précuire la pâte parce que quand même ça va être liquide.
Quelle pâte ? Quel type de
la
pâte ?
La pâte à tarte.
Pâte feuilletée.
Brisée ou feuilletée ?
Brisée, feuilletée, okay. Comme tu veux.
Brisée, c'est moins gras.
Voilà.
C'est bon feuilletée aussi.
Voilà. Moi, personnellement, je fais ma pâte à tarte, donc je me pose pas trop la question. Voilà. Et pendant que tu précuis ta pâte, donc tu prépares les épinards, donc t'enlèves les queues, tu fais des gros morceaux avec les feuilles. Tu mets dans un saladier, t'ajoutes 3 œufs, une petite brique de crème,
ouais.
Crème fraîche, sel, poivre, et voilà.
Quoi, c'est tout ?
Bah ouais.
Et tu cuis combien de temps ?
Il faut cuire, il y a
et après 45 minutes au four, voilà.
D'accord.
Alors oui, donc ce que je disais tout à l'heure, je disais...
Du chèvre, non ?
Voilà, je parlais aussi de chèvre. Donc,
on suit.
Alors juste la base, c'est, on peut le faire les épinards, avec un peu de chèvre. Ça donne un petit goût en plus qui est quand même sympa. Donc chèvre frais ou une petite bûche de chèvre, ça va avoir un peu plus de goût.
Pour ceux qui n'aiment pas le chèvre, on peut mettre quoi ? Parce que chèvre, délicat.
Si t'aimes pas le chèvre...
Je parle pour moi.
Gruyère.
Oui, ça peut être voilà, avec du gruyère, du parmesan. Oh oui, du parmesan, voilà.
Très bien.
Tu trouveras des lardons pour ceux qui en mangent. Voilà, il y a plein de solutions, voilà.
Il faut couper en morceaux. T'as coupé en morceaux les épinards avant ou non? Tu balances les...
Alors moi j'enlève la queue et après je fais des petits morceaux. Enfin je fais ça grossièrement quoi.
Ah donc tu déchires un peu les feuilles.
Je fais des gros morceaux.
Tu déchires un peu les feuilles.
Si les morceaux sont gros c'est bien. Ça tu gardes de la texture. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi. Même chose on peut faire. Alors là je le fais en tarte. On peut aussi le faire en cake. Donc pareil, tu prépares tes feuilles, tu mets du chèvre, tu mets dans un moule à cake avec la pâte à cake. Et voilà, et avec ça, je t'assure, même les enfants mangent des légumes.
Ah, c'est ce qu'on voulait.
Bon, c'est un peu le truc, tu mets du chèvre,
voilà,
ça fait tout passer.
C'est
hein.
Ça.
Un truc qui est intéressant avec cette recette, c'est qu'on n'y pense pas toujours, mais on peut aussi le faire avec des blettes, avec le vert des blettes.
Oui, oui. Hein,
et on réserve les côtes de blettes pour une autre recette ou pour faire un accompagnement. Ou voire même avec des fans, par exemple des fans de navets, puisqu'on est en pleine saison du navet. pareil, on peut faire une tarte ou un cake aux fans de navets avec un peu de fromage de chèvre. Nickel. Et comme on est en pleine saison, alors là en ce moment on trouve encore des beaux épinards avec les petites feuilles. Et alors là, feuilles, ça, tu arraches la petite feuille qui est au cœur de la pote d'épinard, et ça tu peux le manger en salade.
Ah.
T'es même pas obligé de le cuire.
Que le cœur, pardon.
Alors plus les petites feuilles.
Pourquoi pas les autres?
Parce que les grosses feuilles sera moins bon.
Oui, c'est moins d'accord.
Voilà. Mais alors les petites feuilles, c'est vraiment, ça vaut le coup d'essayer en salade. Tu les prends, tu les mets dans la salade.
Ah ouais.
C'est goûtu, c'est doux, ça reste très croquant. C'est vraiment à découvrir.
Merci beaucoup Clément pour cette nouvelle recette. On passe tout de suite à la chronique à portée de parole avec cette fois-ci un invité qu'on connaît bien mais qui vient pour un autre sujet. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
À portée de parole, les Chavillois prennent le micro.
Alors Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous présenter ton association ?
Tout d'abord, merci de m'avoir invité encore une fois. Ouais, on s'était rencontré rue avec mon placard dans le dos, le survêtement du FC Sèvres.
C'est ça, c'est comme ça qu'on t'a posé la question.
Le FC Sèvres, vous m'avez proposé de proposer. Et je vous ai parlé du club de foot. Hein. Bah, c'est pas original, un club de foot, c'est pas très original, mais nous, chez nous. À Sèvres, on a une section de sport adapté. Donc, vous m'avez demandé, viens la présenter. Bah, j'ai dit OK. Donc, je suis là et je vais vous la présenter. Puis, je vais attendre vos questions s'il y a des questions.
Moi, je vais commencer par une question tout de suite. Le football club de Sèvres, c'est combien d'adhérents ?
Il y a plus de 1000 adhérents.
Et c'est
1000 adhérents, pour une ville de 22 000 habitants, c'est quand même énorme.
D'accord,
voyez,
c'est bien, ouais, c'est un
donc,
gros
club. Au niveau régional, on est régional, régional. On est un des meilleurs clubs classifiés, parce qu'il y a la Fédération Française de Football classifie les clubs. Hein, en fonction des... Il n'y a pas que les résultats, il y a aussi l'encadrement, il y a tout ça, la réception des joueurs, les différentes catégories. Voilà, donc il y a un classement en fonction de... Voilà, on met des...
D'accord.
Ils cochent des cases et puis... et nous, on est un très bon club de région parisienne et même de l'Île-de-France.
Ok. Et il existe depuis combien de temps, ce club, sa création ?
Alors, depuis sa création, je peux vous en parler, puisque j'y étais à l'époque, ouais. c'était en 1960, première saison en 1973-74.
D'accord.
Siècle dernier.
On commence à avoir déjà une petite histoire. Et vous jouez sur quel terrain ? Vous jouez où ?
On a deux terrains officiels qui est le stade des Fontaines et qui se trouve au milieu de Sèvres, sur la rive gauche, plus le stade Jean Wagner qui est à l'orée de la forêt de Meudon. Et ensuite, on a aussi des créneaux horaires au niveau du stade Marcel Beck.
D'accord.
Évidemment, vous comprendrez bien qu'avec 1000 adhérents, oui. Avec deux terrains, c'est pas assez. Oui.
Bon, alors, donc, tu as évoqué tout à l'heure donc, la section de foot adaptée. Hein, c'est d'elle, donc, tu vas nous parler. Donc, à qui s'adresse-t-elle, cette section ? Quelle est la philosophie qui y préside ?
Alors le foot adapté, c'est des personnes qui ont un handicap, hein, il faut dire le nom. Hein. Alors c'est pas réservé à qu'une seule catégorie d'handicap. On a des autistes, on a des handicapés physiques, on a des... ça me gêne toujours de parler d'handicap. Mais je trouve que c'est surtout la philosophie de pour ces personnes-là d'intégrer un sport qu'ils ont envie de faire et qu'ils peuvent pas faire. Voilà. Et nous, quand le sport adapté national, la Fédération nationale du sport handicap s'est créée il y a plusieurs années de ça, ils ont des personnes de bonne volonté, on s'est dit bah, on va faire du foot adapté, puisque c'est quand même le sport national, le football, et les handicapés, bah, ils regardent, mais ils ne peuvent pas pratiquer. Donc, on s'est aperçu quand même, il y a différents responsables de clubs qui ont vu qu'il y avait quand même de la demande. Donc ça s'est organisé comme ça.
D'accord.
Et nous, on s'est inscrit dedans. Voilà, le FC Sèvres s'est inscrit dans...
Et
dans
cette section-là, elle existe depuis quand?
Ça fait 10 ans maintenant.
Une dizaine d'années, d'accord.
10 ans. D'ailleurs, la semaine dernière, c'est un joueur qui m'a dit « Jean-Pierre, ça fait 10 ans, c'est l'anniversaire. Ça fait 10 ans qu'on est... »
Il y a des joueurs qui sont là depuis 10 ans.
Oui, oui.
Oui,
oui, j'en ai 3 encore qui sont là depuis. Alors ça vient, ça sort. Nous, comme je dis, on ne fait pas de la championnite. Moi, personnellement, ni c'est la philosophie du club, c'est pas de faire de la championnite. C'est que cette catégorie de personnes puisse prendre du plaisir à pouvoir taper dans un ballon sur un terrain de football dans des conditions égales aux valides. Voilà, c'est notre principal. Ils rentrent sur le terrain, ils sont contents. Ils ressortent du terrain, ils sont contents. Qu'ils aient perdu ou gagné, on les encouragera toujours. Jamais on fera de la championnite, hein, pour ceux qui connaissent un peu le terme et la philosophie de la championnite qui est complètement négative avec des gamins déjà. Moi j'ai été éducateur de gamins pendant plus de 20 ans, hein, donc je sais ce que c'est et j'en reviens.
Ouais. Voilà. Alors comment concrètement êtes-vous organisé à l'intérieur de cette section? Elle est ouverte à partir
alors,
de là.
Elle est ouverte il faut être quand même majeur, 18 ans. On ouvre à tout le monde. Les personnes peuvent venir faire un essai pour voir si ça leur convient, hein, évidemment. Ensuite, si ça leur convient, eh bien, ils prennent une licence de joueur au club. C'est une licence de la Fédération française de football. Le foot adapté à sa propre fédération.
D'accord.
qui vient se connoter avec la Fédération française de football. Donc les matchs sont organisés par le sport adapté. Par contre, il faut être en règle vis-à-vis de la Fédé au niveau des assurances. Évidemment, il faut être assuré, hein, pour jouer, parce que
bien sûr,
il peut y avoir des accidents, et puis même au niveau des valides il y a des accidents, donc voilà. Donc
qui encadre, comment se fait
l'encadrement? Et on a un bon encadrement, parce que c'est le directeur technique qui a un brevet d'état premier degré, qui s'en occupe tout particulièrement et qui suit bien. Et ensuite, nous sommes 3 initiateurs avec un diplôme fédéral.
D'accord.
Donc on est là pour... quand même, on sait de quoi on parle, on a quand même fait des stages qui vont bien. Quoi.
Et donc, vous êtes combien d'encadrants pour combien de licences? Il y a combien de joueurs, en fait?
Dans la section, alors, on est 4 encadrants, mais on veut toujours être présent.
D'accord.
Puisque on veut pas louper un entraînement, on veut pas louper un match, on veut pas, à cause d'encadrants. Donc, il a été décidé qu'il y aurait toujours... On n'est pas 4, mais on veut être minimum 2. Même si on est 9 ou 10, 10 joueurs, il y a actuellement 10 licenciés, on peut en accueillir encore 6 ou 7. Vis-à-vis de la compétition, quand même, c'est du football à 7, en travers du terrain. Donc pour avoir une équipe complète à chaque match, on veut toujours être minimum 2. De manière à ce qu'il faut qu'il y en ait un qui soit à côté d'eux à chaque fois.
D'accord.
Chaque fois.
Ok, donc effectivement, vous êtes toujours 2 sur le terrain. Voilà,
sur le terrain, toujours une personne au moins dans le vestiaire. Ça, parce que c'est pas arrivé. Il faut être toujours vigilant.
D'accord.
Avec ces catégories-là, il faut être vigilant. Des fois, ça peut partir en live, comme on dit. Oui, oui. Bon, je vais pas...
Oui, oui, donc... Voilà. Il y a combien de séances d'entraînement par semaine? C'est
non,
quand
Non, s'il y a une séance, c'est le jeudi soir,
ouais,
entre 18h et 19h30.
D'accord, donc ça fait une bonne heure sur le terrain.
Ça fait pour avoir une heure de terrain.
D'accord. Et est-ce que le club fournit du matériel aux joueurs ?
Comme tout à chacun, comme tout, ils ont un short et un maillot pour le match, et on leur donne une paire de chaussettes.
D'accord. Et ils peuvent, s'ils veulent, acheter un
survêtement
ou un caouet
aux marques
du
complet,
club. D'accord.
Voilà.
Et les matchs, vous en faites à quelle régularité ?
En général, c'est un match par mois.
D'accord.
On fait. Il y a un championnat, il y a un petit championnat. Ouais. Et qui dure, c'est un match par mois qui dure deux fois une demi-heure.
D'accord.
Voilà.
Et pour l'instant, vous avez. Alors, donc, vous ne quittez pas l'Île-de-France.
Non.
Vous avez rencontré. Non. Exemple de club que vous avez rencontré dans le cadre de matchs.
Alors, là, on a le club parisien, le CA14, on y a la CBB, il y a Dourdan. Ouais, on peut.
Ça, d'accord. Vous tournez. C'est bien. Alors, concrètement, comment fait-on pour s'inscrire et peut-on s'inscrire si on n'habite pas Sèvres ?
Pour s'inscrire, il faut aller, c'est simple. Vous allez sur le site FC Sèvres 92. Vous allez taper sur Google et vous avez tout.
D'accord.
Et là, vous avez tout. À partir de Google, vous avez l'adresse du club et tout. Vous avez le téléphone. Vous pouvez avoir des renseignements sur Facebook. Voilà. Ouais. Sur Instagram, sur chaîne YouTube, vous pouvez avoir celui qui veut trouver, il trouve.
D'accord. Bon, merci Jean-Pierre.
Merci beaucoup Jean-Pierre Fournier. Merci Monique. Donc je rappelle l'association Sèvres FC 92, le téléphone 01 45 07 17 94, le Facebook Sèvres tout attaché FC 92, Instagram c'est pareil avec un slash à la fin, et vous avez même une chaîne YouTube Sèvres FC. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain à 8h comme toujours. C'était Jonathan Denuy, à bientôt.